Non, les économistes se trompent constamment, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, aux États-Unis, nous avons une relation un peu amour-haine avec les économistes. Nous ne sommes pas d'accord avec eux sur à peu près tout, mais il suffit de regarder n'importe quelle grande chaîne d'information à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour qu'ils nous disent « Qu'est-ce que les investisseurs sont censés retenir de tout ça ?» Je ne sais pas, John. C'est un peu un mème pour critiquer les économistes qui se trompent, en particulier dans leurs prévisions. Il n'y a pas si longtemps, en 2022, 70% des économistes interrogés par Bloomberg prévoyaient une récession en 2023 qui n'a jamais eu lieu. La croissance du PIB a en fait été plus forte que jamais auparavant. Même chose en 2021. 16 des 36 économistes lauréats du prix Nobel encore en vie ont prédit une inflation légère et transitoire juste avant un pic de 20 ans de près de 8%, dont nous n'avons toujours pas vraiment fini. Et c'est, vous savez, en fait, c'est bien parce que ce n'est pas leur travail. Nous expliquer comment le monde fonctionne est peut-être ce qu'ils disent être leur travail, la façon dont ils sont perçus et ce que suppose le fait de leur demander constamment leurs pensées et leurs prédictions. Mais en réalité, le travail des économistes n'est pas d'expliquer le monde tel qu'il est réellement. En réalité, leur travail est de représenter le monde tel qu'ils aimeraient qu'il soit et, ce faisant, de faire de ce monde une réalité. Malheureusement pour nous, les économistes ne sont pas de notre côté. Mais d'abord, c'est l'heure de lire les annonces, car je dois payer mes factures. Laissez-moi vous montrer quelque chose très rapidement. Tapez votre nom sur Google. Je sais que vous devez ouvrir un autre onglet ou changer d'application. Faites-le très vite. Vos informations personnelles apparaîtront probablement, non ? Si je recherche mon nom, ce sont juste mes comptes publics sur les réseaux sociaux. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que j'utilise Aura, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes constamment harcelé par des appels, des SMS et des emails indésirables, voici pourquoi. Il existe des entreprises appelées courtiers en données dont le seul but est de trouver et de vendre vos données. Elles le font sans votre consentement et gagnent des milliards en les vendant à des spécialistes du marketing, des escrocs et même des harceleurs. Et bien qu'elles soient légalement tenues de supprimer vos informations si vous le demandez, elles rendent volontairement le processus confus et difficile. C'est pourquoi je recommande toujours Aura à ma famille et à mes amis. Ils s'occupent de tout pour vous. Ils suppriment vos données de ces sites et les conservent. Aura est un outil de sécurité numérique tout en un. Vous utilisez peut-être déjà une autre application de base, mais ne pas utiliser Aura, c'est comme verrouiller votre porte d'entrée et laisser votre porte de derrière grande ouverte. Et Aura ne se contente pas de lutter contre les courtiers en données. Ils vous alertent si vos données personnelles sont trouvées sur le dark web. Ils fournissent des alertes de fraude en temps réel pour le crédit et les services bancaires, une surveillance du vol d'identité 24h, 24 et 7J7, un VPN sécurisé, un antivirus, un contrôle parental, un gestionnaire de mots de passe, un vérificateur de crédit, etc. Et si quelque chose devait arriver, Aura inclut une assurance contre le vol d'identité de 5 millions de dollars. Et ils ont des experts en fraude basés aux États-Unis disponibles 24h, 24 et 7J7. Si vous êtes comme moi, je suis sûr que vous en avez marre de ces petites entreprises stupides et malveillantes qui volent vos informations personnelles et les utilisent pour se faire de l'argent rapidement. C'est pour ça que j'utilise Aura. Cela nous protège, moi et ma famille, en ligne. Si vous êtes prêt à protéger vos données, vous pouvez obtenir 2 semaines absolument gratuites en utilisant mon lien. Pendant ces 2 semaines, vous verrez exactement où vos données sont divulguées et qui le fait. Essayez. Je vous promets que vous apprécierez la tranquillité d'esprit. Maintenant, revenons à l'émission. Vous vous souvenez peut-être que dans d'autres vidéos, nous avons parlé de l'économie et de la croissance et du fait qu'elles ne sont pas réelles. Ce sont des idées relativement récentes qui ne reposent pas sur des vérités objectives, mais sur des objectifs politiques spécifiques, une mauvaise logique et des décisions comptables subjectives, généralement prises par les riches et les puissants pour des raisons égoïstes, comme plus de guerre pour tout le monde et moins de travail pour eux. Nous avons abandonné le PIB non seulement parce que c'est une mauvaise mesure, mais aussi parce que la croissance économique est fausse, ou plutôt arbitraire, sauf que comme la plupart des gouvernements se soucient de satisfaire les riches, ce fantasme a de réelles conséquences. Les gouvernements poursuivent cette fausse idée avec de vraies politiques qui ont un impact réel sur votre vie, généralement négatif. Dans cette vidéo, cependant, je veux aller un peu plus loin dans notre dénigrement de l'économie. Ce n'est pas seulement que les économistes se trompent souvent. Tout le monde se trompe. Prédiction, modèle, théorie, peu importe. Ce n'est pas qu'ils s'appuient sur des prémices erronées, de mauvaises données ou des mesures subjectives qu'ils ne peuvent généralement pas très bien défendre. Chaque manuel d'économie 101 devrait être accompagné d'un million de mises en garde qui rendent fondamentalement tout cela inutile. L'idée selon laquelle nous sommes tous des acteurs rationnels auto-optimisés avec des préférences fixes parfaitement ordonnées, recherchant l'utilité dans le vide, où nous ne communiquons qu'à travers des prix que nous pouvons négocier, est un fantasme total. Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas ce que je conteste. La plupart des économistes eux-mêmes admettront volontiers tous ces problèmes. La raison pour laquelle nous ne devrions pas leur faire confiance est bien plus fondamentale pour la discipline. Les économistes prétendent que seuls, et eux seuls, d'un point de vue neutre et extérieur, comprennent le capitalisme. L'économie, point, l'économie, point, l'économie, point, l'économie, l'économie, point. Quelque chose qu'ils présentent comme une chose technique compliquée liée à des règles secrètes qu'ils doivent découvrir à l'aide de données, de graphiques et d'expériences. La réalité est bien plus triste. Les économistes ont pour mission de produire, d'assainir et de mettre au monde des outils de violence contre les pauvres. Lorsque les riches veulent des moyens de s'enrichir aux dépens des pauvres, ce qui est la seule façon dont ils peuvent y parvenir, le travail littéral des économistes est de créer des graphiques, des formules et des politiques qui disent « nous n'avons pas d'autre choix ». Les économistes n'étudient pas l'économie. Ils l'inventent. Mais comment font-ils cela? Tout d'abord, il y a les moyens évidents. Élaborer des théories qui servent les riches. John D. Rockefeller, John D. Rockefeller, John D. Rockefeller. En 1890, John D. Rockefeller dépensa environ 600 000 dollars, soit 170 millions de dollars d'aujourd'hui, pour fonder l'Université de Chicago. Au cours des 20 années suivantes, il investit près de 35 millions de dollars supplémentaires dans l'école, soit l'équivalent d'une erreur, veuillez utiliser des valeurs inférieures à 10 millions. Rockefeller a un jour qualifié cet investissement de meilleur qu'il ait jamais fait. Car si vous avez déjà entendu parler de Chicago, c'est probablement pour son département d'économie. Elle a accueilli des personnalités comme Milton Friedman, le père fondateur du monétarisme, ainsi que Theodore Schultz et Gary Baker, les auteurs de la théorie du capital humain. Ces personnes sont influentes. Vous, les économistes de Chicago, êtes toujours influents. Ils remportent plus de prix Nobel d'économie que les économistes de toute autre école. Ils font partie du conseil des conseillers économiques du président, des deux partis, et sont en première ligne pour créer les théories économiques dont vous avez entendu parler dans la tradition néoclassique. Ce que la plupart d'entre nous apprennent au lycée ou à l'université, c'est simplement l'économie de base. C'est la première chose sur laquelle il faut se concentrer. Au niveau le plus élémentaire, les économistes créent les cadres à travers lesquels nous comprenons le monde. Des idées de base comme l'offre et la demande expliquent pourquoi une chose a ce prix. C'est une idée courante assez peu controversée que la plupart d'entre nous connaissent, et à laquelle nous croyons implicitement. Même si, quand on y réfléchit bien, on peut probablement citer un millier de contre-exemples. Les prix changent au cours de la durée de vie d'un produit, ou de manière aléatoire chaque jour, ou en fonction de l'ordinateur et de l'adresse IP que vous utilisez pour y accéder, ou de la connaissance que vous a le vendeur, ou si vous obtenez une réduction si vous en achetez plusieurs, ou si vous utilisez un code de parrainage. Cela signifie le lien TV dans la description. Ensuite, il y a le fait que personne ne traite un téléphone d'une entreprise comme un téléphone d'une autre entreprise, ou même un modèle ou une couleur comme un autre. L'idée même qu'il existe une offre et une demande de téléphone est une abstraction. Elle n'existe pas vraiment, car chaque téléphone est un produit à part entière et son prix n'est qu'une de ces qualités que nous prenons en considération. Il n'est pas non plus ajouté à la fin. Il est construit et répété tout au long du processus, de la même manière que l'appareil photo. Il est basé sur un tas d'autres prix. Et même si vous pouvez acheter un téléphone pour 1000 dollars, vous ne pouvez pas le revendre à Apple au même prix. Pourquoi pas? Si le prix était le reflet parfait de la valeur qui émerge du point de rencontre de l'offre et de la demande, qu'importe à Apple d'avoir un rectangle valant 1000 dollars ou plusieurs rectangles de papier valant 1000 dollars? Les choses se gâtent encore plus lorsque l'on examine la manière dont les entreprises fixent réellement les prix. Parfois, un billet de train est fixé à un tarif forfaitaire que vous payez pour monter à bord. Parfois, il est basé sur la distance parcourue. Parfois, vous achetez un siège spécifique avec des avantages spécifiques, comme une annulation de dernière minute. La plupart du temps, les prix sont fixés à l'aide de formules qui sont elles-mêmes basées sur des données, des vibrations ou simplement des conventions suffisamment bonnes, comme celle-ci. Ajoutez simplement 30% à ce que vous avez payé et tout ira bien. Il est intéressant de noter que les formules sont souvent basées sur le travail plus direct des économistes. Par exemple, lorsque les comptables des sociétés pharmaceutiques doivent aider leurs dirigeants à décider d'investir dans le développement d'un médicament ou d'un autre, ils utilisent ce qu'on appelle des fonctions d'actualisation. Il s'agit en gros d'une formule qui leur permet de fixer un prix actuel sur les futurs médicaments. Les fonctions d'actualisation sont largement basées sur les théories économiques développées par l'économiste Irving Fisher. Ces formules étaient d'abord principalement académiques, puis ont été intégrées dans les manuels de comptabilité financière, puis sont devenues une pratique courante. Les gens utilisent ces formules non pas parce que la théorie qui les sous-tend nous montre la vérité de l'économie. Les théories de Fisher n'étaient que cela, des théories sur l'origine de la valeur. Sa réponse était les bénéfices futurs. Mais les fonctions d'actualisation ont contribué à construire un monde dans lequel la théorie de Fisher s'applique parfois. Les bénéfices futurs déterminent effectivement le prix dans certains cas. Non pas parce que Fisher était brillant, mais parce qu'il était utile aux actionnaires. Le monde a été adapté à ces théories, construites autour du fait que les fonctions d'actualisation pouvaient et allaient être utilisées parce que ceux qui avaient le pouvoir les ont adoptées et déployées. Les fonctions d'actualisation en tant que technologie d'investissement que les gestionnaires utilisent placent implicitement l'intérêt des actionnaires en premier lorsqu'ils prennent des décisions sur des choses comme le développement de médicaments. L'idée de valeur de Fisher n'est qu'une théorie. C'est en réalité une opinion politique, mais c'est aussi un outil qu'un économiste a conçu pour servir les riches. Ainsi, les médicaments que nous produisons dans une société capitaliste sont effectivement basés sur les bénéfices futurs. On peut dire la même chose de l'offre et de la demande. Cette idée n'est pas une vérité universelle, nous le savons. Mais elle colore notre façon de penser le monde et cela signifie que certaines entreprises peuvent augmenter les prix et imputer cela à la rareté. Nous n'y pensons tout simplement pas beaucoup. La théorie économique passe sous silence cette agence. Il passe sous silence les milliers de petites décisions, moments, conventions, lois, personnes individuelles dont vous avez besoin pour réellement créer quelque chose, créer l'endroit où le vendre, gagner l'argent pour l'acheter et faire en sorte que la transaction ait lieu. Les économistes partent du principe que l'argent, les marchés, les prix, les transactions, tout cela apparaît spontanément de nulle part et que toute cette histoire s'évapore au moment où vous et moi décidons d'échanger quelque chose. Et ils ont construit des théories et des outils autour de cela qui ont un impact profond sur nos vies. Mais cela ne se fait pas tout seul. Pour que l'économie soit performative, les économistes doivent réellement s'impliquer dans sa mise en œuvre. Et cela implique généralement de faire des expériences. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Chicago est célèbre pour avoir produit les Chicago Boys, un groupe d'économistes chiliens qui ont été parmi les premiers à mettre en pratique la théorie économique néolibérale lorsqu'ils l'ont directement conseillé le dictateur chilien Augusto Pinochet. Pour ce faire, les Chicago Boys ont créé El Rio, la brique, un programme économique de 200 pages pour le Chili après que Pinochet a pris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire soutenu par la CIA. Parmi leurs recommandations, la libéralisation du commerce et la réduction des droits de douane, la privatisation généralisée, y compris de la sécurité sociale, et une taxe sur la valeur ajoutée régressive. Ensemble, le régime dictatorial de Pinochet et la thérapie de choc du Chicago Boy ont entraîné la torture et la disparition de milliers d'opposants politiques. Des dizaines de milliers de manifestants ont été arrêtés et un krach économique dévastateur a frappé le Chili en 1982, laissant une personne sur quatre au chômage. Le PIB a fini par rebondir et exploser. Mais même lorsqu'il l'a fait, le régime de Pinochet a mis fin à la pauvreté de 45% de la population, l'éducation et les soins de santé ont été largement privatisés et les revenus des 10% les plus riches ont augmenté de 83%. Lorsque Pinochet a démissionné, le Chili était le 8e pays le plus inégalitaire au monde. Milton Friedman a qualifié cela de miracle. Et le Chili est loin d'être le seul endroit où ces petites expériences ont lieu. Des économistes comme Jeffrey Sykes ont également administré le traitement de choc à d'autres pays comme la Bolivie, la Pologne et la Russie. Cela n'a pas fonctionné non plus. Plus récemment, les expériences des économistes ont adopté une échelle et une approche plus conservatrice. Mais elles n'en ont pas moins été dévastatrices. La plupart du temps, ces expériences sont directement financées par des capitalistes philanthropes qui veulent tester leur fantasme libertaire et uniquement leur fantasme libertaire. Aucun milliardaire ne finance des recherches sur l'économie socialiste dans la pratique. Remarquez que les économistes sont dans l'ensemble de la même lignée pro-capitaliste. Les travaux anticapitalistes de gauche en économie politique existent bel et bien, ils sont assez nombreux en fait, et ils sont remarquablement approfondis, mais ils ne reçoivent tout simplement pas ce genre de soutien et d'attention, que ce soit dans les médias ou lorsqu'il s'agit de faire du travail pour le gouvernement. Quoi qu'il en soit, dans d'autres cas, ces économistes néoclassiques pro-capitalistes travaillent plus directement avec les gouvernements. En Égypte et au Pérou. Un autre économiste, Fernando de Otto, a pu faire valoir ses théories sur l'économie. Son mystère secret expliquant pourquoi le capitalisme fonctionnait en Occident mais pas ailleurs était, selon lui, aussi simple que d'avoir des titres de propriété officielle. En gros, un registre légal indiquant à qui appartient quelle terre et quel logement. D'Otto affirmait que si les pauvres étaient pauvres dans le sud, c'était parce qu'ils avaient toute cette richesse qui dormait dans des maisons et des terres qu'ils ne pouvaient pas utiliser pour contracter des prêts. Par conséquent, ils ne pouvaient pas devenir entrepreneurs en créant des entreprises, et c'est pourquoi ils étaient pauvres. D'Otto ne reprochait pas aux pauvres d'être paresseux ou d'avoir une culture arriérée comme d'autres économistes. Il avait une solution de marché simple. Et parce qu'il était influent et soutenu par plusieurs penseurs et organisations néolibéraux de premier plan, en 2004, la Banque mondiale a pris un risque avec ses idées et a lancé le projet sur les droits de propriété urbaine au Pérou. Cela a-t-il fonctionné ? Non. Je cite, « Les titres de propriété n'ont pas entraîné d'augmentation du crédit aux pauvres. » Et en Égypte, là aussi, D'Otto a mené son expérience. Quel a été le résultat ? Je cite, « Les preuves disponibles montrent qu'il n'y a que peu ou pas d'impact positif. » Les conséquences que nous avons constatées sont que les propriétaires fonciers obtiennent davantage de droits et que les locataires se font beaucoup plus avoir. Les loyers ont augmenté grâce au nouveau système de titrage qui a facilité la vente de parcelles pour les propriétaires, en particulier les grands propriétaires, ce qui est logique. Si le seul bien que vous possédez est la maison dans laquelle vous vivez, titre de propriété ou non, vous ne la vendrez pas, sauf si c'est la toute dernière chose que vous faites. Cependant, avec toutes ces terres transformées en actifs liquides, les riches pouvaient spéculer dessus en achetant plus facilement pendant les ralentissements économiques qui obligeaient les pauvres à les vendre et concentrant la richesse entre de moins en moins de mains. Et si les riches n'étaient pas les premiers à agir, de nombreux petits propriétaires, et je dis bien exclusivement les petits propriétaires, perdaient leurs terres lorsqu'ils ne pouvaient pas rembourser les prêts qu'ils avaient contractés et que la banque prenait leur garantie. Du point de vue de l'économiste, cependant, tout cela ressemble à de la croissance, car tout à coup, beaucoup plus de richesse était visible. Tout cela a été un échec total. Les gens ne contractaient plus de prêts maintenant qu'ils avaient des titres de propriété. Et cela a du sens, car la théorie de Dodd-Tout était basée sur des conneries. Dans des pays comme les États-Unis, dont il était censé s'inspirer, la plupart des petites entreprises n'ont pas du tout besoin d'emprunter. Lorsqu'elles le font, la source de prêt la plus courante est la carte de crédit. Utiliser sa maison comme garantie n'est même pas une option pour la plupart des gens. Évidemment, ce n'est pas le titre de propriété qui a fait fonctionner le capitalisme en Occident. C'est l'impérialisme qui l'a fait, mais cela ne constitue pas une bonne expérience économique du point de vue de la Banque mondiale. Mais nous nous sommes éloignés du sujet. Le pire, ce n'est pas que Dodd-Tout se soit trompé ou qu'il ait basé sa théorie uniquement sur des ondes. Les économistes font ça tout le temps. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, rappelez-vous. C'est que sa théorie a activement remodelé la politique dans plusieurs pays, car les riches et les puissants pouvaient en bénéficier. Avant Dodd-Tout, les pauvres avaient du pouvoir lorsqu'ils pouvaient tenir les riches à distance en détenant des terres et des logements en commun ou avec des titres informels qui rendaient leur achat difficile. Ils avaient du pouvoir lorsque leur richesse n'était pas trop liquide et était immobilisée dans de petits actifs comme le bétail. Mais cette théorie d'un économiste, ces petites expériences et les montagnes de soutien des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde ont activement détruit ce pouvoir. Les programmes de titrage ont entraîné des saisies et des expulsions visant les pauvres. Cela a obligé davantage de personnes à trouver du travail à l'extérieur de leur foyer pour les grands capitalistes qui possédaient désormais davantage. Cela a entraîné l'embauche de tribunaux, d'huissiers, de prisons et de policiers armés pour faire respecter ces nouvelles lois sur la propriété. La violence pour le plus grand nombre et la prospérité pour quelques privilégiés. Partout, l'histoire est la même. La croissance capitaliste n'est que synonyme d'inégalité. Les économistes ne sont pas vos amis et ils ne méritent pas votre confiance. Ce sont des fantassins qui font le sale boulot de justifier la misère.